Et ce matin, dans le 8-30, on prend de l'altitude sur Alpin. Vincent Gouillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alpiniste amateur, alors originaire du pays d'Argentan, c'est dans l'Orne, en Normandie, mais désormais, on va pas s'y méprendre, vous êtes au Alpin.
Voilà, c'est ça, je vis à Barcillonnette, hein, juste au-dessus de la Saulce.
Et donc, vous êtes alpiniste amateur, vous aimez les défis, avec un nouveau défi, on va en parler, un défi qui rime avec l'Everest. L'Everest, c'est le rêve de tous les férus d'altitude?
Non, pas forcément, mais voilà, ça se présente, donc des chances comme ça, on n'en a qu'une fois dans sa vie, donc on va essayer de se lancer à fond là-dedans, dans ce projet.
Alors, ce projet, ce défi, en avril prochain, vous allez tenter de gravir l'Everest sans oxygène, l'ascension du toit du monde sans apport d'oxygène. Comment ça vous est venu cette idée? Parce que si vous réalisez cet exploit, vous serez le 8e ou le 9e Français à le réaliser.
Voilà, c'est ça. Ben, en fait, on part. On est déjà parti avec Marc Battard, un alpiniste français, un des meilleurs himalayistes au monde dans les années 80-90, qui a été le premier à faire l'Everest sans oxygène, sans apport artificiel d'oxygène en moins de 24 heures. Et donc, Marc a décidé, suite à sa deuxième ascension de l'Everest, toujours sans oxygène, de ne plus jamais passer par l'Icefall. Et donc, il s'est lancé pour défi de trouver un nouvel itinéraire. Et en 2021, on est parti une première fois pour équiper la future voie normale de l'Everest. Et on a équipé jusqu'à 5880 mètres d'altitude, à peu près. Et là, on va finir le travail de la nouvelle voie, donc monter sur l'arête ouest du Nupsé à 6300 mètres, environ 6200, 6300, pour redescendre dans la combe ouest.
Ouais, cette voie sécurisée, donc c'était en novembre 2021, une voie plus sécurisée, alors on ne veut pas dire non plus que c'était une autoroute, hein, mais c'est une voie plus sécurisée pour les Sherpas notamment.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est pour apporter un petit peu plus de sécurité aux Sherpas. Il faut savoir qu'au niveau de l'Icefall, le glacier du Khumbu se déplace de 1 mètre par jour. Donc tous les jours à 2 heures du matin pendant la saison des expés, donc au printemps ou à l'automne, des travailleurs d'altitude vont rééquiper l'Icefall, vont mettre leur vie en danger dans l'Icefall sous la menace des séracs, des crevasses, des blocs de glace, des avalanches. Et depuis le début des expéditions commerciales, rien que dans l'Icefall, il y a eu 46 morts à ce jour.
Alors ça allait être ma dernière question, mais c'est pas grave, j'ai anticipé un peu justement. On se souvient de cette photo qui montrait les dérives du tourisme d'altitude sur l'Everest. Est-ce que ça s'est un peu calmé depuis ces dernières années ou est-ce qu'on repart à nouveau sur l'ascension du toit du monde qui devient une véritable expédition touristique avec des files et des files d'attente?
Je pense pas que ça soit parti pour se calmer, hein, parce que avec tout le confort et toute l'énergie que déploient les Népalais pour accueillir les Occidentaux et pour rendre l'ascension plus accessible, c'est pas prêt de se calmer. Au contraire, ça va être de pire en pire de toute façon.
Est-ce que du coup, quand on gravit l'Everest, il y a toujours cette petite notion d'exploit, puisque vous êtes en train de le dire, hein, ça devient de plus en plus confortable. Est-ce qu'au final, gravir l'Everest aujourd'hui, ça reste un exploit?
Ben, ça dépend de la manière, quoi. Alors, si on l'a fait avec oxygène et avec un porteur devant, un porteur derrière qui s'occupe de porter les bouteilles, qui s'occupe de faire la trace, ça devient, c'est du sport, c'est sûr, mais ça reste une sortie en montagne. Après, si on décide d'aller en montagne pour la montagne, de la respecter telle qu'elle est, sans apport artificiel d'oxygène, sans avoir tous ces Sherpas pour nous aider, c'est sûr que ça reste un exploit. De toute façon, le nombre de personnes, le nombre de Français qui ont réussi à réaliser l'ascension sans oxygène montre que ça reste un exploit.
Et justement, est-ce que vous pourriez en dire plus sur les personnes qui seront avec vous, qui vont vous accompagner, hein, durant ce défi d'avril prochain? Il y aura une femme avec vous.
Voilà, donc on part à 4 Français. Donc Marc Battard, le chef d'expé, organisateur. Gérard Ménard, qui est son assistant, son deux guides. de Haute-Montagne. Jean-Marc Demose, qui est de Saint-Bonnet.
Que vous connaissez bien, de Saint-Bonnet, voilà, en effet, dans les Hautes-Alpes.
Mon compagnon de cordée habituel, et moi-même. Et donc, on part le 15 avril, là, et on va retrouver Dabuti Sherpa, qui veut devenir la première Népalaise à réussir l'ascension de l'Everest sans oxygène.
Alors, vous, justement, il y aura quelles difficultés techniques? Parce que vous, en l'occurrence, il n'y aura ni porteur, ni oxygène. Du coup, quelles difficultés techniques?
Techniquement, il n'y a pas grande difficulté. L'ascension de l'Everest, ça reste, c'est pas de la randonnée glaciaire. Il y a quelques endroits où on doit poser un peu les mains pour avancer, mais il y a pas de grosses difficultés techniques concernant l'Everest. Les plus grosses difficultés nous concernant, ça va être pour sécuriser la voie Timor Mark Batar.
Ouais. Et vous n'aurez pas de médecin non plus au sein de l'expédition. Alors c'est pas la première fois. Déjà en novembre 2021, vous n'en aviez pas. Qu'est-ce que ça implique quand même? En prévention,
Ça implique. Ça, après, on prend nos constantes, ils font des petits appareils qu'on met au bout du doigt. On peut avoir. Ça nous donne la tension, le pouls, le taux d'oxygène dans le sang. Donc, on arrive à avoir un minimum d'informations là-dessus, savoir si on peut commencer à monter un peu en altitude ou pas. Et après, on aura une pharmacie, une trousse à pharmacie. On sait à peu près ce qu'il faut prendre et quand il faut le prendre. Et voilà, on arrivera à se gérer comme ça.
Alors, un départ en avril, vous le disiez, le 15 avril, c'est pas pour rien. C'est un moment propice.
Oui, c'est ça. Oui. Les expés commerciales sur les plus hauts sommets du Népal se font soit au printemps, soit à l'automne. Avec, historiquement, une préférence pour le printemps.
Donc, du coup, ça veut dire quoi pour vous au mois d'avril?
Le mois d'avril, on part, on finit quelques formalités à Katmandou, ensuite on essaye de finir l'équipement de la voie de Marc. Une fois que la voie est équipée, on va s'acclimater sur le Nöbte, qui est un sommet satellite de l'Everest. Qui culmine à 7800. Alors, il y a le Nöbte, c'est une chaîne de 7 ou 8 sommets. Hein, celui qu'on vise est à 7840 mètres à peu près.
Donc, acclimatation sur ce sommet.
Voilà, acclimatation sur le sommet. Si on va redescendre un peu en altitude pour bien récupérer, si la récupération se passe bien, si la météo est bonne, parce que ça, c'est le facteur. Déclencheur ou qui peut tout faire capoter. Si la météo est bonne, si la récupération est bonne, si on arrive à boucler les budgets, parce que ça coûte beaucoup d'argent de vouloir faire l'Everest.
Combien?
Alors, par personne, en style alpin, comme on veut le faire, donc sans sommiteur, juste en ayant à payer un officier de liaison et le permis, c'est au minimum 15 000 euros par personne.
Donc du coup, si tout va bien, si la météo va bien, si la récupération est bonne, du coup, départ pour quand, arrivée pour quand, on va dire?
Faut pas avant début mai. Ça dépend de la fenêtre météo, voilà. On espère qu'on aura une bonne fenêtre météo la première semaine de mai. Voilà.
Merci beaucoup Vincent Gouillet d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette expédition, ce défi que vous lancez en tant qu'alpiniste amateur originaire des Hautes-Alpes, l'expédition de gravir l'Everest sans oxygène. Ce sera donc au mois d'avril, mais on l'a compris, ça se passera sur plusieurs semaines. Merci beaucoup.